clé secrète de l'univers. Dominique Demichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Et vous écoutez ni plus ni moins que le grand feuilleton de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, après notre cinquième épisode la semaine dernière, nous arrivons au sixième épisode et déjà nous sommes juste après le Big Bang. Vous avez écouté et entendu la magnifique musique de Richard Strauss qui a introduit le film de Stanley Kubrick et nous voici de nouveau 15 minutes ensemble avec vous tous pour ce parcours sur l'émergence du vivant. Nous avons avec nous un savant et un conteur, Michel Galliana Mingo, qui est l'auteur de cet ouvrage que je vous recommande chaleureusement, « Les clés secrètes de l'univers » publié cette année chez EDP Science. Alors nous étions, Michel, la dernière fois, juste au tout début. Vous aviez dit qu'il y avait un tout petit peu de temps hein, qui s'appelait le mur de Planck, hein, qui séparait la toute origine, et puis le moment où on peut commencer à regarder un œil, une infime fraction de seconde, et puis là, on commence à pouvoir en dire quelque chose. Je vous redonne la parole.
Oui, bonjour à tous. Nous parlions la dernière fois de ce fameux mur de Planck, qui est un peu un voile pudique qui cache le Big Bang, et qui est aussi un horizon de nos connaissances, parce que ce mur de Planck, c'est une dimension qui, à partir de laquelle nos théories ne fonctionnent plus. Alors, ce que je vous dis là est donc quelque chose qui correspond à notre époque. Je ne sais pas si un jour on pourra franchir ce mur avec de meilleures théories, mais en tout cas aujourd'hui, il y a une limite à notre compréhension, et le Big Bang se trouve au-delà de cette limite. Alors, nous allons maintenant, pour poursuivre le feuilleton et voir comment s'est développé l'univers, nous allons partir donc, non pas du Big Bang, qui reste un grand mystère, mais de ce fameux mur de Planck, à partir duquel les choses deviennent intelligibles. Oui. Et ce que nous savons, c'est qu'à partir de là, l'univers a connu une très forte expansion, très rapide, qui a duré une infime parcelle de secondes. Là aussi, c'est quelque chose qui paraît tout à fait étonnant, mais ça se décrit très bien par les équations de la physique, et toute la communauté scientifique aujourd'hui s'accorde sur cette idée de l'inflation, bien qu'au sens strict, elle ne soit pas prouvée pour l'instant. Mais elle résout tellement de problèmes que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est vraie. Et donc, cet univers va grandir. Alors, qu'y a-t-il au départ? C'est très difficile de qualifier le départ, parce qu'au départ, après ce mur de Planck, il n'y a pas encore de particules, il n'y a pas encore de matière. C'est donc un état extrêmement difficile à qualifier, et disons que nous ne pouvons pas qualifier pour l'instant avec la physique parce qu'on se trouve dans des énergies beaucoup trop élevées. Alors, comment je le dirais pour monsieur tout le monde? Je dirais considérer cela comme une parcelle d'énergie. Une parcelle d'énergie, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de matière, il y a simplement de l'énergie. Mais on pourrait dire que c'est vide. Non, c'est un vide qui est plein, non pas de particules, de matière ou autre, mais il possède déjà les lois physiques qui vont faire toute la complexité de l'univers ensuite.
Ça, c'est important hein, de bien souligner là qu'on va, découvrir des forces, c'est ça, hein, qui agissent, qui font quelque chose, c'est ça?
Oui, ce sont des lois physiques qu'on connaît bien maintenant. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces lois physiques sont déjà présentes. Des lois, hein, c'est pas de la matière, ce sont des lois comme la loi de la gravité de Newton qui définit la force de gravité. Ben, ceci est déjà potentiellement inscrit. Inscrit comment? that is the question, inscrit dans cette particule d'énergie. Et moi, je trouve que la meilleure image que l'on puisse donner de cette particule originelle, c'est celle de l'ADN. Vous voyez, un œuf fécondé est une cellule qui possède un ADN qui est issu des parents.
Alors, je vous coupe un peu, Michel. ADN, acide désoxyribonucléique, c'est un ensemble de protéines avec des choses qu'on appelle les bases xantiques, et c'est dans nos chromosomes. Les chromosomes, c'est à l'intérieur du noyau, les noyaux, c'est à l'intérieur de nos cellules, et les cellules, nos auditeurs, ils savent à peu près tout ce que c'est. Je vous redonne la parole.
Voilà, donc si on prend un microscope, on regarde notre corps au microscope, on voit des cellules. Si on pousse encore plus loin le microscope, on trouve le noyau de la cellule. Si on va plus loin dans le noyau de la cellule, on trouve cette fameuse molécule de l'ADN qui est notre génome. Et donc, patrimoine génétique. Et donc, cette molécule qui se trouve dans le noyau va suffire pour constituer un être complet, que ce soit un chien, un éléphant, une souris ou un homme. Tout ceci va se faire à partir de cette unique molécule qui est présente au départ. Eh bien, je dis que le Big Bang rappelle beaucoup cela, parce que dans cette parcelle d'énergie qui se trouve à l'origine, il y a déjà inscrit, codé, si vous voulez, un certain nombre de lois qui vont ensuite faire tout le reste. Je trouve que le parallèle est intéressant et je dis souvent à propos de l'univers, on verra ça dans ces petites conférences, on verra que les choses se font en grande partie d'elles-mêmes, c'est-à-dire que l'univers se fabrique tout seul, mais tout seul à partir d'un point de départ où les choses étaient déjà inscrites quelque part, il y avait un peu un scénario qui était écrit. Et l'analogie que je prends souvent pour dire cela, c'est la recette de la cuisine. Et la recette de cuisine était inscrite dans ses ingrédients. Mmh. Et le premier ingrédient, c'est cette parcelle d'énergie. Et je pense que la recette de cuisine était déjà inscrite dans cette parcelle.
Mmh. Donc avec des règles précises. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du mur de Planck avec un peu cette ère de Planck juste après? Vous avez ensuite parlé d'inflation. On parle souvent un petit peu de l'ère de l'inflation. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut commencer, tout à l'heure vous aviez l'air de dire que pas tout à fait, est-ce qu'on peut commencer à dire qu'il y a quand même un petit peu de matière, voire peut-être d'antimatière, et peut-être de photons qui se baladent, qui voltigent, qui naviguent entre ces deux... Je ne sais pas trop quoi, ces deux particules d'énergie, je vais reprendre votre mot de tout à l'heure.
Oui, bah tout à fait. Cette particule de départ va connaître une très grande inflation, c'est-à-dire va s'étendre à toute allure et en même temps va se refroidir. Alors, tout de suite une image pour comprendre cela. Quand vous comprimez un gaz, il chauffe. Quand vous le détendez, il refroidit. Quand vous mettez de la pression d'air dans les pneus, vous gonflez les pneus de votre bicyclette, la pompe chauffe parce que vous comprimez l'air. Quand vous appuyez sur une bombe d'aérosol, ce qui sort est froid. Donc, c'est une loi très très simple de la physique. Lorsque vous comprimez de la matière, ça chauffe. Lorsque vous l'étendez, ça refroidit. Et donc, cette inflation très rapide...
Pour bien comprendre, je vous coupe. Quand on appuie sur la bombe de l'aérosol, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est très très comprimé et c'est donc très froid, c'est isolé, donc on ne le sent pas trop. Et quand ça sort, ça se réchauffe parce que l'air extérieur est plus chaud et donc ça se dilate. Hein, c'est ça. Donc comme c'est comprimé, ça prend moins de place, mais c'est froid. Et quand ça se dilate, eh ben, ça se refroidit, hein, c'est ça.
Alors, Dominique, excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait ça. La bombe aérosol que vous avez dans vos mains, elle n'est pas froide, elle est à la température de la pièce.
Oui.
Simplement, quand vous appuyez sur le bouton et que du gaz sort, ce gaz prend tout d'un coup un volume 100 ou 1000 fois plus grand. Mmh. Il se dilate et en se dilatant, il refroidit.
D'accord.
Alors, c'est le destin que connaît l'univers. Il était très très chaud et il allait refroidir très vite. Et en refroidissant, c'est là que se crée tout ce dont vous parliez, c'est-à-dire, vous disiez la lumière ce sont des photons, la matière ce sont des protons, des neutrons, des électrons. Eh bien, tout ceci se fabrique très vite pendant 3 minutes, en fait. Pratiquement tout était fait en 3 minutes, pendant 3 minutes de refroidissement. Le refroidissement est extrêmement rapide et on voit se créer une après l'autre toutes les particules qu'on connaît aujourd'hui. Alors, toutes les particules, combien parle-t-on de particules? Il y a tout ce que vous avez autour de vous est formé grosso modo de 7 particules. C'est l'électron, le quark, je ne vais pas vous donner des noms barbares. 7. Et à cela s'ajoutent les forces, on en reparlera plus tard. Il y a 4 forces qui gouvernent l'univers, et ces 4 forces s'expriment aussi sous forme de particules, c'est comme ça, les forces aussi. Et donc les 7 particules de matière et les 4 particules de force vont apparaître toutes dans ces 3 premières minutes de l'univers.
Alors, il me semblait que, par exemple, là, je joue un petit peu le bébête ou le candide, il me semblait que pour la gravitation, on savait pas trop encore reconnaître ou détecter la particule qui correspond. C'est ça ou je dis une fois de plus
Non,
quelque chose
non,
qui n'est pas très
vous avez
pertinent?
doublement raison, Dominique. D'abord, quand je dis que toutes les particules sont nées à partir de cet instant, juste après le Big Bang, on ne peut pas le dire de la force de gravité. La force de gravité, théoriquement, elle doit s'exprimer sous forme d'une particule qu'on ne connaît pas, qui s'appelle le graviton. Et cette particule, elle devait déjà exister au fameux moment du mur de Planck. Donc vous avez raison, c'est un peu à part, si vous voulez. J'ai un peu simplifié la vérité. L'autre chose, bah, vous l'avez dit, c'est que le graviton, on ne l'a jamais observé. C'est une particule qu'on n'a jamais observée. Donc pour l'instant, la gravitation, pardon, conserve un côté très mystérieux en science.
Il nous reste une toute petite minute avant qu'on se retrouve la semaine prochaine. Vous nous redites quelque chose là de l'essentiel de cette émission là?
Oui, ben, moi je conclurai peut-être sur quelque chose. Il est tout à fait singulier que 11 particules, je disais 7 de matière et 4 de force, 11 particules font tout ce que nous voyons autour de nous. L'ensemble de l'univers est fait de ces 11 particules. Et je crois qu'il y a un double mystère derrière cela. Alors, le premier mystère sera éclairci dans les prochains épisodes, c'est comment si peu de particules, 11, comment si peu de particules peuvent développer une si grande complexité, y compris nous-mêmes, l'homme, son cerveau. C'est la première interrogation. Et la deuxième, c'est que on se dit aussi, mais il n'y a que 11 particules, on aurait pu voir dans l'univers 527 particules, 22 212 particules, ou pourquoi pas 100 515. Et donc, pourquoi si peu de particules et pourquoi elles réalisent une telle complexité ensuite? Ça, c'est un des grands mystères aussi.
Les briques finalement originelles et en même temps les briques originales sont finalement très peu nombreuses. Et bien Michel, nous arrivons à la fin de notre sixième épisode. Je rappelle le titre de votre livre, Les clés secrètes de l'univers, publié chez EDP Sciences. Michel, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.